Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
Droit constitutionnel, démocratie et état de droit. À 10 ans de son existence, comment la Cour constitutionnelle participe-t-elle au respect des équilibres entre les institutions de l'État? Quelle jurisprudence peut-elle faire valoir en matière de droit constitutionnel sur la démocratie et l'état de droit? C'est la problématique du magazine de promotion de vos droits et devoirs avec le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta, à l'occasion des festivités marquant les 10 ans de cette institution. Excellente écoute à tous. Constitutionnel, démocratie et état de droit. Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle, parle de la compétence de son institution sur les actes des assemblées en tant qu'une cour garante des droits et libertés fondamentaux.
J'aimerais peut-être préciser, parce que cette notion revient, de par les textes, la Cour n'a pas la compétence sur les actes d'assemblée. Mais étant donné l'idéal de l'état de droit, cela veut dire que dans un état de droit, quand un fait qui trouble ou qui viole les libertés et droits fondamentaux des citoyens est constaté et vous examinez dans l'architecture judiciaire du pays, il n'y a aucune juridiction qui peut connaître de cette violation, il se pose un problème. C'est partant de ce constat que la Cour constitutionnelle, en tant que garante de l'observation de normes constitutionnelles et surtout qui garante du respect de droits et libertés fondamentaux des citoyens dans notre pays, partant de cette éthique ou de l'idée de l'état de droit posé en liminaire déjà dans l'article premier, la Cour a arrondi sa compétence pour examiner toute violation qui émanerait, toute violation qui touche des droits et libertés fondamentaux qui émaneraient d'un acte d'assemblée si cette violation n'est de la compétence d'aucune autre juridiction. Ne pas le faire, c'est cautionner le déni de justice. Pour ce qui concerne spécialement les actes d'assemblée, il convient de noter que jusqu'à ce jour, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle renseigne qu'à maintes reprises, cette dernière les a censurés lorsque ceux-ci méconnaissaient des droits fondamentaux, en l'occurrence le droit de la défense et celui de l'égale protection des lois. En ce qui concerne le droit de la défense, il convient de dire pour la Cour, les droits de la défense comportent essentiellement 3 aspects. L'intéressé doit être informé qu'une procédure est engagée contre lui et doit recevoir communication des griefs invoqués à son encontre. Cette information qui doit le mettre à mesure de présenter utilement sa défense doit intervenir dans un délai raisonnable avant l'édiction de la sanction ou de la mesure le concernant, c'est-à-dire ni trop tôt ni trop tard. C'est le sens de la protection tirée des articles 146 alinéa 3 et 198 alinéa 9 de la Constitution, applicable pour les membres de gouvernements provinciaux. Ces dispositions accordent un délai minimum de 48 heures avant le débat et le vote, délai qui doit être compris entre le jour de la notification des griefs et le jour du débat sur les griefs en question, bien avant la sanction. La Cour considère qu'au nom de la rigueur de la protection du droit de la défense, c'est aussi le régime qui doit s'appliquer pour les membres du bureau des assemblées provinciales concernés par une procédure de déchéance. Ainsi, dans plusieurs arrêts, la Cour a eu à déclarer fondées les requêtes par lesquelles les requérants ont été déchus sans avoir été mis dans les conditions de présenter leurs moyens de défense. En ce qui concerne l'égale protection de loi, il faut noter préalablement qu'il impose, en effet, que les hommes soient traités de la même façon, qu'ils disposent de mêmes droits et soient soumis aux mêmes devoirs, et que personne ne soit victime d'une application discriminatoire d'une disposition de la Constitution ou de la loi. Pour la Cour, La majorité requise dans la prise des décisions, prévue à l'article 146 de la Constitution, l'est pour garantir non seulement la stabilité du gouvernement, mais aussi et surtout la protection des titulaires des mandats ainsi mis en cause. Sur cette question, par son arrêt Air Const 1256, la Cour a eu à déclarer inconstitutionnel un acte d'Assemblée qui portait atteinte au principe de l'égale protection des lois aux requérants qui n'avaient pas bénéficié d'un droit prescrit par l'article 46 de la Constitution.
La Cour, en tant que garante juridictionnelle du principe de la séparation des pouvoirs.
En effet, il n'est plus à démontrer à ce jour que la justice constitutionnelle, mission qu'assure la Cour constitutionnelle, représente une garantie de l'équilibre institutionnel en permettant de sanctionner le non-respect des éléments constitutifs des principes normatifs de la séparation des pouvoirs par le biais du contrôle de la loi et des litiges inter-organes. En effet, il ne faudrait pas perdre de vue que l'exercice par les institutions de la République de leurs prérogatives constitutionnelles peut engendrer des conflits de compétences lorsque l'une ou l'autre disposition de la Constitution s'avère obscure ou ambivalente. C'est ainsi qu'à côté du pouvoir des décisions exécutoires ou de l'autorité de la chose jugée, la Cour constitutionnelle a également reçu compétence d'interpréter des textes constitutionnels qui s'avèrent obscurs ou ambigus. Il est certain que le fonctionnement des institutions ou entre institutions n'est pas exempt de blocage, de paralysie ou de dysfonctionnement, entraînant par ricochet l'inertie de l'État et l'inanition du droit. Ce moment de doute institutionnel, court soit-il, peut être saisi par la Cour constitutionnelle afin de limiter toute possibilité de voir émerger dans la sphère institutionnelle publique ou privée des actes juridiquement exotiques. C'est ici l'occasion d'aborder la question des régulations que le professeur Nikès Med qualifie de lubrifiants institutionnels. Elle permet au juge constitutionnel d'intervenir dans les fonctionnements des institutions en lui enjoignant tel ou tel autre comportement afin de faire échec à une situation de paralysie imminente ou réelle. C'est une compétence qui s'est imposée au juge constitutionnel qui se voit dorénavant obligé, dans certains cas, de n'apprécier la juridicité d'une norme qu'au regard des équilibres à ménager entre pouvoirs et la balance à établir entre droit et intérêt légitime. À travers sa jurisprudence, il apparaît clairement que la Cour constitutionnelle participe au respect des équilibres entre les institutions de l'État. Pour s'en rendre compte, la Cour a jugé sous Air Const 1640 que, considérant le fonctionnement harmonieux des institutions, éviter ou prévenir tout conflit institutionnel, instaurer un état de droit, contrer toute tentative de dérive dictatoriale, garantir la bonne gouvernance, lutter contre l'impunité et garantir l'alternance démocratique, la compétence que la Cour constitutionnelle exerce en tant que régulateur de l'activité de pouvoir public et garantie de l'équilibre du système démocratique implique la sauvegarde de la sécurité juridique et de la stabilité institutionnelle. En effet, la part de la Cour constitutionnelle dans l'avènement de l'état de droit démocratique dans notre pays, sous le prisme de la régulation du fonctionnement des institutions et de l'activité de pouvoir public, s'analyse sous deux branches. La première branche est naturellement celle du rôle d'arbitrage. Sous cet aspect, la Cour est en effet l'institution chargée par les constituants de maintenir l'équidistance entre organes, entre deux ou plusieurs institutions. C'est le cas lorsqu'elle doit réguler les compétences entre le pouvoir central et le pouvoir et la province, entre l'exécutif et le législatif, ainsi que les juridictions judiciaires et administratives.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques. Nous en parlons dans votre magazine. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi.
Dans sa deuxième branche de régulation, comment la Cour s'assure-t-elle du fonctionnement harmonieux d'une institution?
La Cour s'assure du fonctionnement harmonieux d'une institution afin d'éviter des situations comparables à celles d'un boa qui avale sa queue. Particulièrement pour la deuxième, la Cour a été saisie en inconstitutionnalité par les députés provinciaux de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, afin de voir la Cour annuler le procès verbal mettant fin à leur fonction par un bureau d'âge. Cependant, entre le moment de la saisine de la Cour et le moment du prononcé de l'affaire, l'Assemblée provinciale de l'Équateur avait procédé à l'installation d'un bureau définitif. On doit le souligner, ce mode de règlement juridictionnel de crise offre en effet l'avantage d'être tantôt préventif, tantôt curatif par rapport à la situation de paralysie ou d'imprévu. Dans les cas de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, le bureau définitif aurait à craindre la remise en cause de la légitimité de son pouvoir par les députés invalidés, lesquels n'étaient pas présents au moment du vote, tout en ayant la qualité pour voter. On peut rappeler que la pratique parlementaire ne reconnaît pas l'effet suspensif de la décision sur fond d'un recours juridictionnel. J'aimerais peut-être expliquer dans ce cas-là pour comprendre l'importance de la régulation. Saisie par certains députés provinciaux qui ont été déchus de leurs droits, après examen, la Cour trouve que le recours était fondé et déclare l'acte d'assemblée inconstitutionnel. La conséquence logique est que ces députés provinciaux regagnent l'Assemblée provinciale. Mais n'oublions pas qu'avant d'être déchus, ils étaient membres du bureau. Dans l'entretemps, quand ils reviennent, donc après la décision de la Cour, la même Assemblée provinciale a déjà élu un autre bureau définitif. La Cour, en ce cas-là, fait de la régulation. Pourquoi elle ferait de la régulation? Parce qu'elle a aussi pour mission de ne pas troubler le bon fonctionnement des institutions. Il ne faudrait pas que la décision de la Cour, même si ces députés provinciaux ont raison, mais la décision intervient au moment où l'institution dont ils sont membres a déjà acquis une autre réalité pour son fonctionnement. En ce moment-là, la décision de la Cour n'aura d'effet que de les remettre comme députés provinciaux et pas comme membres du bureau. C'est ça la régulation, parce que dans la décision, la Cour précise très bien que leur victoire, si on peut le dire, n'aura pas de mérite à troubler l'ordre déjà établi. Ce que ne ferait pas une juridiction ordinaire. Donc la Cour s'adapte à la situation réelle et prévient aussi les conflits potentiels. Il se dégage qu'au regard de la complexité d'une telle question, la Cour ne peut se résoudre à se prononcer sur la régularité du procès verbal, acte contesté ou anticiper les différentes crises qu'engendrerait une décision constitutionnelle favorable au requérant. Une précision mérite d'être apportée à ce sujet afin de dissiper tout malentendu. Il ne s'agit pas pour la Cour constitutionnelle d'opérer un contrôle d'opportunité pur et simple, mais d'anticiper les crises politico-politiciennes en veillant à ce que le cadre d'action au sein de l'Assemblée politique repose sur des règles de droit, loin de porter atteinte aux droits acquis des uns et des autres. Ainsi, il a été jugé que les députés invalidés vont retrouver la qualité des députés provinciaux, mais que la décision de la Cour n'aura pas pour effet de reconnaître aux députés réhabilités un quelconque droit de remettre en cause la configuration du bureau qui s'est cristallisée.
Quelle est l'action de la Cour constitutionnelle en tant que garante de la justice électorale dans l'avènement d'un état de droit?
L'action de la Cour constitutionnelle dans l'avènement de l'état de droit démocratique est également lié à la résorption des crises de légitimité. L'idée de l'intervention de la dite juridiction dans le champ des élections vise à démontrer comment la Cour a contribué à l'émergence de l'état de droit démocratique sous la Constitution du 18 février 2006 au regard des cycles électoraux précédents. Cette vérité constatée sous les R-Const 358 dans lequel la Cour constitutionnelle était confrontée à une série de questions. En liminaire, la compétence de la dite Cour à connaître de la régularité de l'organisation des élections présidentielles, législatives et sénatoriales ex ante. Ensuite, la Cour constitutionnelle devait faire le choix entre organiser les élections dans le délai constitutionnel mais sans garantie de la vérité des urnes et de la sincérité du scrutin selon la CENI, ou reporter ces élections en opposition des termes de la Constitution, puisque celle-ci dispose que les élections sont organisées chaque 5 ans. Enfin, la Cour devait décider du sort d'une partie des Congolais se trouvant à l'est du pays, confrontés au vol des kits d'enrôlement, lesquels fait est susceptible d'entraîner la production des cartes d'électeurs parallèles qui peuvent entacher l'ensemble du processus. Outre ce fait, la Cour devait décider sur l'intérêt de la prise en compte ou non des déplacés externes et internes, de faire participer les Congolais résidant à l'étranger à l'élection du président de la République, d'intégrer les compatriotes ayant recouvré leurs droits civils et politiques et d'extraire les compatriotes ayant perdu les droits civils et politiques en œuvrant dans l'armée. Il importe de noter que le vote et ou l'éligibilité sont des expressions d'un droit fondamental. Il en découle que la régularité ex ante des élections n'échappe pas à la compétence de la Cour, car la régularité et la sincérité des élections politiques, qu'elles soient nationales ou locales, se déterminent par le contrôle général des régularités qu'effectuent les juges antérieurement au scrutin. Ainsi donc, la régularité qu'assume le juge est primordiale dans les déroulements du processus électoral, étant donné que cette phase préalable a des répercussions sur les scrutins dont elle peut affecter la régularité. La Cour constitutionnelle affirmant ainsi sans ambages que ce contrôle préventif n'excède pas la lettre des compétences reconnues à la Cour constitutionnelle par la Constitution et la loi organique portant son organisation et son fonctionnement. S'agissant de la question de l'intégrité électorale, la Cour y avisa qu'il est de principe qu'à l'impossible nul n'est tenu et au vu des raisons justifiées par le but de la protection des droits fondamentaux des citoyens constitutionnellement garantis, à savoir le droit d'élire leurs dirigeants et celui de se faire élire, tel qu'il ressort de l'objet de la requête, laquelle vise effectivement la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens de toute la République démocratique du Congo, notamment celui d'être dirigé par un président de la République et des députés sénateurs régulièrement et démocratiquement élus. À ce propos, la Cour constate que la CENI se trouve dans un état de nécessité, lequel état fonde la dérogation.
Une autre jurisprudence évoquée par Dieudonné Kamouleta concerne l'organisation des élections de 2023 avec l'exclusion d'une frange de la population dans une zone sous occupation des milices.
La Cour a été saisie pour dire si l'exclusion par la CENI de la population des territoires de Masisi et Rutshuru par aux élections, en se fondant sur l'insécurité alimentée par l'éclosion de groupes rebelles et à Kwamout par une milice armée, ne viole pas les articles 5 et 12 de la Constitution. Dans ce cas, la Cour a fait observer que l'égalité de tous les Congolais devant la loi, consacrée par l'article 12 de la Constitution, est une prescription dont le respect s'impose dans les conditions normales, de sorte que le non-respect ne saurait affecter la régularité du processus électoral lorsque des circonstances objectives extérieures, aussi bien à la volonté des acteurs de l'élection qu'à celle de ceux qui ont en charge l'organisation de celle-ci, ne permettent de le respecter. En effet, en raison de l'importance des dangers que peut faire courir une situation de crise à des composantes essentielles pour la vie nationale, la jurisprudence a admis des adaptations du droit d'autant plus importantes et plus spectaculaires que les circonstances étaient graves. Tel est notamment le cas des circonstances exceptionnelles que connaît la République démocratique du Congo, précisément dans les territoires de Masisi et Rutshuru, actuellement confronté à une guerre mettant à mal toute possibilité de mener un processus électoral qui garantisse son intégrité et l'expression libre du droit de vote. Le même motif vale pour le territoire de Kwamout, exposé à une milice armée. L'interprétation faite par la Cour ne constitue pas une application particulière en matière électorale du principe de l'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 5 et 12 de la Constitution. En effet, sans égarement, la question de fond portée sur la différenciation de traitement des territoires en insécurité fondée sur l'inégalité de traitement, celui-ci n'est pas forcément une discrimination car le principe d'égalité commande que des personnes se trouvant dans des situations analogues ou comparables reçoivent un même traitement et que celles qui se trouvent dans des conditions non comparables reçoivent également un traitement différencié adapté à chacune de leurs situations. Ceci consolide donc l'idée selon laquelle toute distinction n'est pas synonyme de discrimination. La violation de l'égalité de traitement n'intervient que si la distinction manque de justification objective et raisonnable. Pour toutes ces raisons, il est de bon aloi que la Cour juge qu'autoriser l'exercice du droit de vote dans les conditions susdécrites serait le sacrifice du droit à la vie sur l'autel d'un mal jugé. Il en découle que l'exclusion de l'enrôlement de certains Congolais vivant dans les parties confrontées à la guerre ne constitue pas un motif de violation du principe de l'égalité, car fondé sur les considérations objectives.
Que pouvons-nous retenir en guise de conclusion?
Que voulez-vous que je dise de plus? Car ma conclusion ne sera que le début d'une autre hypothèse. Notez au moins ceci lorsque vous aurez tout oublié. L'état de droit, démocratique et fut-il, est un idéal à atteindre. Il a fallu, par exemple, un siècle à la France pour atteindre ce niveau, entre guillemets, démocratique d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ce niveau se construit, ça ne se décrète pas. Cela à l'épreuve du temps. Les choix opérés par le peuple congolais, celui d'être une démocratie constitutionnelle, signifie que notre démocratie ne peut se soustraire de la suprématie de la Constitution, dont le juge constitutionnel est constamment l'interprète et le gardien juridictionnel, si vous le voulez. Ce rôle qu'il joue lui permet de participer, au travers l'éventail de compétences qui lui sont attribuées, à l'édification de l'état de droit ainsi qu'à l'enracinement d'une culture démocratique. Notez, à maintenant 4 cycles électoraux, où la juridiction constitutionnelle est constamment sollicitée à se prononcer dans le cadre de contrôle des régularités de chaque processus. Cela démontre le rôle, si pas fort mais non insignifiant, de cette juridiction dans la garantie de droits civils et politiques, dans la garantie de la périodicité électorale et dans la garantie de l'alternance démocratique au sommet de l'État. C'est peut-être bien plus tard que d'autres générations jugeront l'apport de la Cour constitutionnelle congolaise dans la garantie de la démocratie, mieux dans l'enracinement de l'état de droit démocratique en République démocratique du Congo.
Droit constitutionnel, démocratie et état de droit, telle a été la thématique de ce magazine de promotion de vos droits et devoirs avec le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, à l'occasion des activités commémoratives de 10 ans d'existence de cette institution le 4 avril 2025. Merci de votre écoute et bonne suite de nos programmes.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.